la misère de l'homme et la miséricorde de Dieu. Second sermon. La miséricorde de Dieu. Dieu les a tous renfermés dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Romains 11, 32. Ce texte réduit la doctrine de la Bible à ses deux articles fondamentaux, la misère de l'homme et la miséricorde de Dieu. Dimanche dernier, j'en ai traité la première partie et j'ai établi la misère de l'homme. Aujourd'hui, j'en traiterai la seconde partie et je vous montrerai le remède à cette misère dans la miséricorde de Dieu. Pour bien comprendre ce discours, il faut avoir présent à l'esprit le premier, auquel il fait suite, et qu'en conséquence, je commencerai par résumer. Le texte de ce premier discours était le premier paragraphe du texte entier. Dieu les a tous renfermés dans la désobéissance. J'ai commencé par éclaircir mon texte, et j'ai montré que la pensée qui y est contenue peut être exprimé dans les termes suivants. Dieu a déclaré que tout homme, dans son état naturel, est pécheur. Ce n'est pas que tout homme soit vicieux, ce qu'on ne pourrait dire sans une sorte de contradiction dans les termes, parce que le vice est une distinction, mais c'est que tout homme est dans un état d'égarement, qui consiste en ce qu'il doit aimer Dieu par-dessus tout, et qu'il aime dans son état naturel autre chose plus que Dieu. J'ai établi ces deux points, en premier lieu, par l'Écriture, car d'une part, elle rapporte toute la loi de Dieu au précepte fondamental d'aimer Dieu par-dessus tout, auquel elle subordonne tous les autres devoirs, même l'amour du prochain. D'autre part, elle enseigne que l'homme aime naturellement autre chose plus que Dieu, et cela non seulement par des déclarations isolées, mais par son ensemble et dans les endroits où elle développe ses principes le plus complètement, en particulier dans les trois premiers chapitres de l'Épître aux Romains. En second lieu, par la raison. Car d'une part, elle montre Dieu à l'homme comme souverainement aimable, soit en lui-même, soit surtout dans les rapports qu'il soutient avec nous, et que j'ai concentré dans celui de créateur à créature. Rapport tel qu'il doit dominer toute notre existence, et que l'homme ne peut cesser d'aimer Dieu par-dessus tout, sans que tout en lui soit bouleversé. D'autre part, il ne faut qu'imaginer ce que serait notre vie si nous aimions Dieu par-dessus tout, pour reconnaître que l'homme naturel ne l'aime pas de la sorte, et qu'il ne lui accorde qu'une estime froide, réservant son premier amour pour quelque autre objet, la plupart pour le monde, les pécheurs mondains, plusieurs pour les affections du cœur, les pécheurs affectueux, quelques-uns pour la conscience séparée de Dieu, et dès lors faussée, les pécheurs vertueux. Ainsi, au nom de la raison, comme au nom de la Bible, nous avons conclu avec saint Paul que l'homme dans son état naturel est pécheur. Voilà le triste résultat où nous a conduit mon premier discours. Vous donc, à qui Dieu m'a fait la grâce de persuader que votre état naturel est un état de péché, et qui, ne vous rappelant à aucune époque de votre vie une conversion, c'est-à-dire un passage d'une première direction à une direction nouvelle, êtes contraint de convenir avec vous-même que vous êtes encore dans votre état naturel, dans votre état de péché. Vous ne pouvez pas, si vous êtes sage, avoir un moment de tranquillité que vous n'en soyez sorti. Car cet état est doublement mauvais. C'est un état de condamnation et c'est un état de misère. C'est un état de condamnation où vous êtes exposé au juste châtiment de Dieu parce que vous êtes coupable, ce que je n'essaierai point d'établir par des raisonnements, mais que vous sentez si vous avez une conscience et une mémoire. Mais c'est aussi un état de misère où vous êtes déjà malheureux par votre péché, quand Dieu ne devrait pas vous punir pour votre péché, et où Dieu lui-même ne peut pas vous rendre heureux, parce qu'il ne peut pas faire qu'une chose soit à la fois et ne soit pas. Que vous soyez à la fois pécheur, et par conséquent opposé à sa volonté, et heureux, c'est-à-dire content de son administration. Ainsi, également coupable et misérable, également indigne et incapable d'être heureux, vous avez besoin d'être délivré et de la peine du péché et du péché lui-même. Jusque-là, il n'y a point pour vous de bonheur possible, et ce que vous appelez de ce nom n'est que en étourdissement. Cette double délivrance, la chercherez-vous en vous-même? Vous ne tarderiez pas à reconnaître par l'expérience ce qu'au reste vous pouvez reconnaître d'avance par la seule réflexion, que vous l'y chercheriez en vain. Vous ne pouvez pas vous délivrer de la peine du péché, car vous ne pouvez pas effacer le crime de votre désobéissance première par une obéissance tardive, qui pût elle-même être parfaite, ne pourrait cependant être surérogatoire et fournir du surplus à reverser sur le passé. Vous ne pouvez pas non plus vous délivrer du péché lui-même, car quelque résolu que vous soyez d'obéir désormais à Dieu, comme une terre imprégnée de sucs malfaisants ne peut pousser des herbes salutaires, ainsi la chair, dit Jésus-Christ, ne peut enfanter que la chair, c'est-à-dire le péché ne peut pas produire la sainteté, ni votre volonté mauvaise réformer votre volonté mauvaise. En sorte que, n'ayant point d'espoir en vous-même et force d'en chercher ailleurs, vous vous écriez avec angoisse « Et qui donc me délivrera ?» Dieu. Il n'accuse votre état de péché que parce qu'il veut vous en délivrer. Il ne vous a renfermé dans la désobéissance que pour vous faire miséricorde. Ainsi vous assure sa parole. Et voici le plan que sa miséricorde a arrêté pour votre délivrance, tel que nous le révèle cette même parole. Je dis tel que nous le révèle sa parole, car je ne veux, dans l'exposé qui va suivre, que vous présenter des pensées de la Bible, sans solliciter l'approbation de la raison humaine. Étant trop manifeste que pour délivrer l'homme pécheur, Dieu n'aura pas pris conseil de l'homme pécheur, et qu'il sera entré dans des voies au-dessus de nos voies, et dans des pensées au-dessus de nos pensées. La raison a pu, quand il s'est agi d'établir notre misère naturelle, être appelée à joindre son faible suffrage à la toute-puissante autorité de Dieu. La raison a sa manière de constater le besoin que nous avons de l'Évangile, et les signes de divinité que cet évangile porte avec lui. Mais quand elle a fait cela, elle a fait toute son œuvre. Son témoignage est épuisé. Qu'elle rentre aujourd'hui dans son silence, qu'elle écoute Dieu qui va parler, et ne prétende pas juger son juge. Et toi, Seigneur, déploie librement aux yeux de cet auditoire ta folie, plus sage que la sagesse des hommes, et par laquelle il t'a plu de les sauver. Et d'abord, tous les prophètes de l'Ancien Testament annoncent, et l'Évangile s'ouvre en proclamant une dispensation de la miséricorde divine, si consolante pour l'homme pécheur, et à laquelle il avait si peu droit de s'attendre, qu'elle a donné à l'Évangile son nom qui signifie « bonne nouvelle ». La première des deux délivrances que vous cherchez vous est acquise. Dieu consent à vous remettre la peine de vos péchés. Il vous pardonne. Ce n'est pas que la condamnation que votre conscience prononce contre vous ne soit juste selon la Bible. Loin de l'infirmer, elle la prononce au contraire à son tour avec plus de force encore. Pour n'en citer qu'un seul exemple, dans ce même chapitre de l'Épître aux Romains, où nous lui avons entendu déclarer, dimanche dernier, que tout homme est pécheur, elle déclare aussi que tout pécheur est inexcusable, ce qu'elle démontre par la manière dont s'est développée la corruption des peuples anciens. Et cette démonstration, bien qu'elle soit prise dans l'histoire des populations, non des individus, s'applique cependant aussi dans la conclusion de saint Paul à chaque homme en particulier, parce que l'histoire des populations se retrouve en miniature dans l'histoire des individus. Car de même que la corruption de ces peuples avait commencé parce qu'ils avaient volontairement fermé les yeux à la lumière, telle qu'elle que Dieu leur avait accordée, et par là contraint Dieu de leur retirer cette lumière et de les abandonner à leurs ténèbres, qui les livrèrent au plus effroyable débordement. Ainsi, tout homme sincère reconnaîtra qu'il a lui-même nourri le péché dans son cœur parce qu'il a volontairement repoussé les premières lumières telles qu'elles que Dieu lui avait données, et par là contraint Dieu de lui retirer ses lumières et de l'abandonner à son ignorance, qu'il a livrée au péché. C'est pourquoi, selon saint Paul, tout homme est coupable et a perdu irréparablement la justification par les œuvres, c'est-à-dire la vie éternelle méritée par une conduite conforme à la loi de Dieu. Mais maintenant, ajoute saint Paul, Dieu, voyant que nul homme n'était arrivé, ni ne pouvait arriver désormais à l'éternité bienheureuse par cette première voie, en ouvre une autre, toute différente, et propose à l'homme la justification par la foi, c'est-à-dire la vie éternelle accordée comme une grâce à un coupable. Pourquoi ? Par cela seul qu'il est miséricordieux, gratuitement par grâce. Le pléonasme est de saint Paul. Non pour aucun mérite, ni pour aucune dignité qui soit dans l'homme, mais malgré tout son démérite et toute son indignité. Et comment ? Par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux de tout le monde. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris sur lui nos langueurs. Il a été navré pour nos forfaits. Il a été froissé pour nos iniquités. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis qui se sont détournées, chacune dans son propre chemin, mais l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous et a fait tomber sur lui le châtiment qui nous apporte la paix. Mes frères, ne tordons point les Écritures. Ces déclarations ne peuvent avoir qu'un sens. Jésus-Christ a souffert en notre place la mort que nous avons tous méritée, pour que nous puissions recevoir en faveur de lui la vie éternelle qu'il a méritée lui seul. Dieu traite son Fils innocent comme s'il était aussi coupable que l'homme, pour pouvoir traiter l'homme coupable comme s'il était aussi innocent que son Fils. Il veut ainsi éloigner de nous nos péchés autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, les jeter au fond de la mer, ne sans plus souvenir, nous relever de notre état de condamnation. C'est ici surtout qu'il vous faut souvenir que je n'en appelle qu'à l'autorité de la Bible. Je n'en appelle pas au suffrage de la raison, que peut-être je n'obtiendrai pas, et dont aussi je n'ai pas besoin, parce que j'expose non mes pensées, mais les pensées de Dieu, et les expose revêtues non de mon langage, mais du langage de la Bible. Que si vous me demandez quel rapport lie le pardon de nos péchés avec la mort de Jésus-Christ, par quelle étrange séparation la justice divine se satisfait en punissant le péché sans punir le pécheur? Et comment Dieu frappe l'innocent en la place du coupable et pardonne au coupable en faveur de l'innocent? Je n'ai qu'un mot à répondre. Je ne sais pas. Et si vous désiriez de moi un discours où la rédemption fût expliquée, je prendrai exemple de ce philosophe de l'Antiquité de qui on avait désiré une définition de Dieu. Je vous demanderai d'abord une semaine pour préparer ce discours. Après cette semaine écoulée, je vous en demanderai une seconde. Après la seconde, une troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je vous eusse enfin déclaré que je ne le terminerai jamais. Car plus ce philosophe méditait sur Dieu, moins il pouvait le définir. Et moi, plus je médite sur la rédemption, moins je puis l'expliquer. Mais quoique je ne puisse pas expliquer la rédemption directement, j'ai une manière indirecte de l'expliquer. Quoique je ne puisse pas la concevoir en elle-même et par ceux qui la constituent, je la conçois en quelque sorte par ceux qui la précèdent et par ceux qui la suivent. Par ceux qui la précèdent, je veux dire par le besoin de ma conscience auquel elle répond. Et par ceux qui la suivent, je veux dire par la paix qu'elle y rétablit. Quand Dieu, sollicité par Moïse, de lui faire voir sa gloire, fit passer devant ses yeux toute sa bonté, Moïse sut, avant que Dieu eût passé, qu'il allait passer, et après que Dieu eût passé, qu'il avait passé. Mais dans le temps qu'il passait, il ne le vit point, parce que Dieu, dit l'Écriture, l'avait couvert de sa main. De même de la rédemption, Dieu passe devant nous, sacrifiant son Fils pour l'expiation de nos péchés. Dans le temps que le sacrifice s'accomplit, nous ne voyons rien. Dieu a mis sa main sur nos yeux. Mais avant qu'il s'accomplisse, nous le contemplons dans le pressentiment de notre conscience angoissée. Et après qu'il a été accompli, Dieu ôte sa main et nous le contemplons dans la paix qu'il nous a rendue. Contentons-nous. Ne soyons pas assez déraisonnables pour nous étonner que Dieu n'ait pas voulu ou n'ait pas pu, dans notre état actuel, nous tout éclaircir. Un jour viendra que nous connaîtrons comme nous fûmes connus. En attendant, croyons Dieu sur parole. Acceptons la bonne nouvelle comme une nouvelle. Dieu consent à pardonner toutes à tous, en considération de Jésus-Christ qui a souffert tout pour tous. Mais c'est en vain que le pécheur est délivré de la peine du péché, s'il n'est délivré du péché lui-même. Aussi Dieu nous offre-t-il encore cette seconde délivrance. Dans le même temps qu'il nous pardonne, et, ce qui est admirable, par le même moyen, il dépose dans notre âme le germe de la sainteté, selon cette parole profonde du psaume 130. Il y a pardon auprès de toi, afin que tu sois craint. La seconde partie du plan de la miséricorde divine, celle qui a pour objet de délivrer l'homme du péché lui-même, en d'autres termes de le ramener à aimer Dieu de son premier amour, est conçu sur un principe divinement simple et fécond, qu'on peut appeler la théorie de la sanctification évangélique. L'amour ne se commande pas. Il naît, sans effort, à la vue de certaines qualités qui l'attirent d'elle-même. Si un être nous paraît dépourvu de ses qualités, s'il ne nous paraît pas aimable, nous ne pouvons pas l'aimer, quoi que nous fassions. Si au contraire, un être nous paraît doué de ses qualités, s'il nous paraît aimable, non seulement nous l'aimerions sans effort, mais nous ne pourrons pas ne pas l'aimer. Si donc nous péchons, si nous n'aimons pas Dieu, c'est que Dieu ne nous paraît pas aimable. Mais si Dieu ne nous paraît pas aimable, c'est que nous ne le connaissons pas. Car si nous le connaissions, nous saurions qu'il possède au plus haut degré de toutes les qualités la plus propre à lui attirer notre amour. Un grand amour pour nous. Quiconque pêche ou quiconque n'aime pas, dit saint Jean, n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Il ne faut donc, pour amener l'homme à aimer Dieu, que lui faire connaître combien Dieu l'aime. Dans ses desseins, Dieu, pour manifester aux hommes son vrai nom, qui est celui de Père, leur a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui, seul ayant demeuré de tout temps dans le sein de Dieu, seul a vu Dieu, et seul connaît tout ce qu'il y a en lui de paternel. Que Jésus-Christ a bien rempli cette mission, et qu'il est impossible de contempler le Fils et de douter de l'amour du Père. Christ est venu, il a parlé de Dieu 3 années et demie, et tout ce qu'il en a dit peut se résumer en cette seule parole : Dieu vous aime. Puis, ce qu'il avait proclamé dans sa vie, il l'a montré par sa mort, et il a dit sur la croix, non plus seulement « Dieu vous aime », mais « Voyez combien Dieu vous aime !» Car quel amour égale celui que Dieu a fait paraître pour nous dans le sacrifice de son Fils ? Quand je veux m'en faire quelques idées, je me figure d'abord un pauvre pécheur, tel que moi, marchant vers le tribunal de Dieu, repassant dans sa mémoire les péchés de sa vie, et dans cette petite portion qu'il en a pu retenir, découvrant matière à le condamner 1000 fois, réfléchissant que, si son cœur le condamne ainsi, Dieu qui est plus grand que son cœur le condamne bien plus sévèrement encore, parce qu'il aperçoit en lui tout le mal que lui-même n'y voit pas, et se souvient de tout celui que lui-même oublie. Écoutant gronder à son oreille ces avertissements redoutables de l'Écriture, jugement anticipé d'une justice éternelle qui prononce malédiction sur le transgresseur de la loi, et qui tient pour transgresseur de toute la loi celui qui en a violé un seul commandement. Enfoncé dans ses réflexions, plein de remords sur le passé, plein d'inquiétudes sur l'avenir, et cependant forcé de marcher toujours dans un désespoir qui croît à chaque pas, arrivant à la présence du Saint des Saints, lui pécheur des pécheurs, et dans son juge sur lequel il n'ose lever les yeux et dont il attend dans un morne silence une sentence atterrante, trouvant un père qui lui dit « Mon enfant, va en paix, tes péchés te sont pardonnés. » Si par ce seul mot son existence est changée, si un poids insupportable tombe de dessus son cœur, si la paix et l'espérance rentrent, dirais-je, ou se précipitent dans son âme, s'il lève sur son juge paternel des yeux, où l'on ne sait si la surprise ne l'emporte sur sa joie, n'est-il pas vrai que la première parole qui sortira de sa bouche sera « Quel amour ! Mon Dieu, quel amour !»« Eh bien, me dis-je alors, l'amour que Dieu m'aurait témoigné dans cette supposition est pâle, auprès de celui qu'il m'a témoigné par la mort de son Fils. Là, tout ce que sa miséricorde a de plus tendre est relevé par tout ce que sa sainteté a de plus terrible. Là, en même temps que je suis instruit qu'il me fait grâce, je suis instruit aussi que sa loi est si inflexible et mon péché si énorme qu'il n'a pas voulu faire grâce sans faire justice. Qu'il a fallu que ma dette fût payée et qu'il a pu seul la payer pour moi. Là, le pardon est un sacrifice où son amour pour le pécheur, déclaré par l'absolution du coupable, se mesure à son horreur pour le péché, déclaré par le sang versé. Quel amour ! Mon Dieu, quel amour ! Et quelle est donc la victime qu'il sacrifie ainsi pour moi ? Est-ce un homme ? Non, dit l'Écriture. Est-ce un ange ? Non, dit l'Écriture. Est-ce une créature ?
Non, dit l'Écriture.
C'est le Fils de Dieu, son Fils unique, en qui il a mis toute son affection, qui a été dès le commencement avec Dieu, qui est un avec Dieu, qui est Dieu.
Et le Créateur se donne pour la créature dans la personne de son Fils.
Quel amour ! Mon Dieu, quel amour !
Et enfin, pourquoi tant d'amour ?
Y a-t-il quelque chose en moi qui ait pu le mériter ? Ai-je seulement prévenu son amour par le mien ?
Non, il m'a aimé le premier. Le secret de sa miséricorde est tout entier dans sa miséricorde elle-même.
Il ne fait grâce que parce qu'il se plaît à faire grâce. Il ne me sauve que parce que j'étais perdu.
Quand j'étais un enfant de rébellion et de colère, son ennemi, c'est le temps qu'il a choisi pour sacrifier son Fils pour moi.
Quel amour ! Mon Dieu, quel amour !
Et cependant, je ne vois que les bords de cet amour.
C'est un abîme où je ne puis regarder jusqu'au fond.
Mais cet abîme n'a pas d'enfoncement qui ne soit rempli par l'amour. Dans ces bords que j'en vois, je découvre un amour qui va le plus loin que mon imagination puisse aller. Et dans ce fond que je ne vois pas, je pressens un amour qui confond, qui absorbe, qui anéantit toutes mes pensées. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour faire l'expiation des péchés du monde. Dieu est amour. Celui qui ne l'aime point ne l'a point connu.
Mais moi qui l'ai connu, moi qui ai contemplé le Christ, l'amour du Père, comment pourrais-je ne pas l'aimer ? Racheté à si haut prix, je ne suis plus à moi-même. Et je lui donne tout mon cœur.
Par une si éclatante manifestation de l'amour de Dieu pour l'homme pécheur, Jésus-Christ aurait fait tout ce qui était nécessaire pour convertir l'homme pécheur à aimer Dieu, si cette manifestation trouvait dans l'homme pécheur un esprit ouvert pour la recevoir. Mais elle ne l'y trouve pas. Les pensées divines exprimées dans la rédemption sont si éloignées de nos pensées humaines qu'elles ne peuvent avoir aucune prise sur notre âme si elle n'a pas subi premièrement une préparation spéciale. La démonstration est claire, irrésistible, mais elle est faite dans un langage qui nous est étranger, en sorte qu'il faut pour la comprendre que nous recevions d'abord au-dedans de nous un interprète de ce langage. Aussi ce préparateur de notre esprit, cet interprète de la rédemption, nous est-il promis encore, sous le nom de Saint-Esprit. Ne vous figurez pas, en effet, que la promesse du Saint-Esprit ne fut que pour les seuls apôtres. Elle est pour tous les chrétiens, de tous les temps. Ce qui, dans les dons spirituels des apôtres, appartenait à la propagation rapide du christianisme, ce qui recevait pour les autres, ne nous est pas comme à eux nécessaire, ni comme à eux promis. Mais ce qui, dans les dons spirituels des apôtres, appartenait à la conversion de leur propre cœur, ce qu'ils recevaient pour eux-mêmes, nous est comme à eux nécessaire, et comme à eux promis. C'est devant tout un peuple que Jésus-Christ a dit « Dieu donnera le Saint-Esprit à quiconque le demande ». C'est dans les épîtres adressées à des églises entières que les apôtres ont écrit « Vous avez reçu l'onction du Saint », c'est-à-dire du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, il n'est point à lui. Que si des affirmations si claires pouvaient vous laisser encore quelques doutes, il ne vous en restera plus après cette déclaration par laquelle saint Pierre conclut son discours de la Pentecôte, et par laquelle il est visible qu'il veut prévenir dans l'esprit de ses auditeurs précisément la même erreur que je combats actuellement dans le vôtre. Vous recevrez la vertu du Saint-Esprit, car la promesse est faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur en appellera. Mes frères, quand Dieu a parlé, ne contestons plus. Le Saint-Esprit est promis à tous les chrétiens. Et savez-vous ce que c'est que le Saint-Esprit? Apprenons-le de la Bible. Écoutons-la sans incrédulité. N'affaiblissons point le sens de ses expressions. Ne demandons pas plus, mais aussi n'attendons pas moins que Dieu ne nous a clairement promis. Le Saint-Esprit n'est pas une réaction de notre esprit sur lui-même, dans la méditation ou dans la prière. Le Saint-Esprit n'est pas non plus une impression produite naturellement sur notre esprit par des pensées vraies ou salutaires. Le Saint-Esprit, c'est une action directe, réelle, surnaturelle, exercée sur l'esprit de l'homme par un Dieu maître de notre cœur, aussi véritablement qu'il l'est de la nature, et qui peut à son gré nous donner et nous ôter des sentiments et des pensées. Ou, pour nous tenir encore plus près des termes de l'Écriture, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu pensant, voulant, aimant, agissant dans l'esprit de l'homme. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. L'Écriture attribue à cet esprit plusieurs influences sur le nôtre, et en particulier celle dont nous avons tout à l'heure reconnu le besoin. Il l'ouvre à la manifestation de l'amour de Dieu contenu dans la rédemption. Elle dit que l'Esprit de Dieu répand dans nos cœurs l'amour de Dieu, c'est-à-dire nous révèle, ou plutôt nous communique l'amour qui est en Dieu pour nous. Que cet Esprit rend témoignage au nôtre que nous sommes enfants de Dieu, réconciliés avec lui par la mort de son Fils, en sorte que par cet Esprit, et par lui seul, nous pouvons recevoir Jésus-Christ pour le Seigneur, le Messie, notre Rédempteur. Mais voici saint Paul qui traite directement de cette doctrine en écrivant aux Corinthiens « Nous n'avons voulu savoir parmi vous que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. » Vous voyez que l'apôtre parle de la rédemption et qu'il déclare qu'elle ne trouve pas dans l'homme un esprit susceptible par lui-même de la recevoir. Mais maintenant, ajoute-t-il, Dieu nous les a révélés par son esprit, car nous avons reçu l'esprit de Dieu pour connaître les grâces que Dieu nous a faites. Quand donc vous aurez reçu cet esprit, vous pourrez croire la rédemption et la sentir. Par là, entrant sous une vive impression de l'amour de Dieu pour vous, votre cœur se tournera vers lui comme de lui-même, et vous commencerez à l'aimer à votre tour. Alors surviendra en vous quelque chose de tout nouveau, des lumières nouvelles, des sentiments nouveaux, des goûts nouveaux, des souvenirs nouveaux, des espérances nouvelles, en un mot, comme dit l'Écriture, une vie nouvelle. Alors, bien qu'ayant encore à lutter contre le péché, dit l'Écriture, vous ne serez plus esclaves du péché, dit cette même Écriture. Vous broncherez encore sur le chemin du salut, mais vous ne suivrez plus le chemin de la perdition. Vous irez vous dépouillant de plus en plus de toute apparence de mal. Alors enfin, vous serez de ceux que l'Écriture appelle justes, convertis, régénérés, rachetés de Jésus-Christ, enfants de Dieu, détachés de ce monde, mûrs pour l'autre, sachant vivre, et pouvant mourir. Ainsi, la miséricorde divine n'a rien laissé manquer pour le salut de l'homme pécheur. Il faut à l'homme pécheur une double délivrance. Coupable, il a besoin d'un pardon. Misérable, il a besoin d'un changement de cœur. Dieu lui offre l'un et l'autre en Jésus-Christ. Il lui pardonne en considération de Jésus-Christ qui a souffert à sa place la peine due à ses péchés. Il lui change le cœur en lui manifestant son amour dans la rédemption qui lui fait croire et sentir par le Saint-Esprit. Mais pour entrer dans ce plan de miséricorde, n'avons-nous rien à faire de notre côté? Ou que faut-il enfin que nous fassions? Oui, nous avons quelque chose à faire. Dieu qui nous a créés sans nous ne veut pas nous sauver sans nous. À quiconque veut recevoir pour lui-même les deux grâces que Jésus-Christ apporte, le pardon et le changement du cœur, il faut une certaine disposition d'âme qui a le nom de foi. L'Écriture l'exige clairement, et n'exige qu'elle. Sans en multiplier les preuves, il me suffira de vous rappeler deux grands traits, l'un du ministère de Jésus-Christ, l'autre de celui des apôtres. Quand Jésus-Christ était sollicité par des malades de leur accorder la guérison du corps, par laquelle il figurait la guérison de l'âme, il leur disait « Crois-tu ? Si tu crois, tout est possible aux croyants. » Et quand saint Paul fut interrogé par le geôlier de Philippe sur ce qu'il devait faire pour être sauvé, il lui répondit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Ainsi, si d'un côté vous ne pouvez être sauvé que par la grâce, de l'autre vous ne pouvez avoir part à cette grâce que par la foi. Mais qu'est-ce donc que la foi? Apprenez-le encore de l'Écriture. La foi, il y a deux significations, selon qu'elle est considérée dans son principe ou dans son application. La foi considérée dans son principe, c'est la conviction générale que la Bible est la parole de Dieu, en sorte que tout ce qu'elle dit est vrai. C'est la foi en Dieu. La foi considérée dans son application, c'est la conviction spéciale qu'il est vrai, puisque Dieu l'a dit dans sa parole, que nous sommes perdus et que nous pouvons être sauvés par Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ. La seconde, la foi en Jésus-Christ, qui n'est au reste qu'une conséquence de la foi en Dieu, est celle qui est exigée par saint Paul du geôlier de Philippe, et qu'il est aussi de nous, pour le salut. Si vous voulez avoir de cette foi la notion la plus exacte, en même temps et la plus simple possible, vous la trouverez dans ce mot d'un lépreux à Jésus-Christ. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net. Je suis perdu, je ne puis pas me sauver. Tu peux me sauver. Sauve-moi, Seigneur. » Voilà la foi. Du jour que vous serez entré dans cette disposition, il n'y aura plus rien dans les promesses de l'Écriture que vous ne puissiez vous appliquer personnellement. Et Jésus-Christ ne sera plus seulement le Sauveur, il sera votre Sauveur. Mais cette foi, comment l'acquérir? Faut-il que Dieu nous la donne? Oui. Car l'Écriture dit « Il vous a été donné de croire ». Faut-il donc attendre sans travail qu'elle nous tombe dans l'esprit? Non, car l'Écriture dit encore « Appliquez-vous, cherchez l'Éternel, travaillez à votre salut ». Mais comment concilier deux choses qui semblent si opposées? En théorie, je tiens la chose pour impossible, mais en pratique, elle est aisée. Vous les concilierez en demandant la foi. Car demander, c'est reconnaître que nous avons besoin qu'on nous donne. Et en même temps, demander, c'est chercher, c'est agir. Demandez donc, priez pour obtenir la foi. Pour vous exaucer, Dieu ne vous fera qu'une seule question, celle de Jésus-Christ au paralytique de Bethesda. Voulez-vous être exaucé? Voulez-vous croire? Non pas seulement « Désirez-vous, souhaitez-vous, mais voulez-vous » Le « voulez-vous » avant tout et quoi qu'il en coûte. Voulez-vous connaître la vérité? C'est-à-dire, voulez-vous faire pour la connaître tous les sacrifices que Dieu exigera de vous? Celui de votre paresse, de votre négligence, de vos préoccupations, de vos intérêts, de vos affections, celui même de vos opinions personnelles et de votre indépendance prétendue? Voulez-vous écouter Dieu dans l'Écriture avec une sincère détermination d'accepter son témoignage, conforme ou non à ce que vous avez cru jusqu'ici? Voulez-vous être pardonné? Voulez-vous être gracié comme un vil criminel? Voulez-vous être confondu dans une commune absolution avec des brigands, des péagers et des pécheurs? Voulez-vous être sanctifié? Voulez-vous faire tout ce que vous trouverez ordonné dans la parole de Dieu, agréable ou non à vos penchants? N'avoir plus de volonté propre, mais suivre la volonté de Dieu seul et lui donner tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes? Voulez-vous, pour tout dire en un mot ou amertume, aux croix de la nature, voulez-vous renoncer à vous-même? Voulez-vous ne valoir rien, ne mériter rien, ne savoir rien, ne pouvoir rien, n'être rien et ne vous réserver rien de rien? Si vous voulez cela, si ces dispositions sont les vôtres, demandez à Dieu la foi librement. Ne craignez pas d'être trop confiant dans cette prière, ne craignez que de ne l'être pas assez. Car douter que Dieu vous veuille exaucer, ce serait douter de sa promesse formelle. Si au contraire, vous ne voulez pas cela, si ces dispositions ne sont pas les vôtres, mais pourquoi jeter les découragements dans vos âmes? Ah, si vous ne sentez pas en vous ces dispositions, mais si vous en sentez du moins le commencement, si vous en sentez seulement le désir, eh bien, présentez à Dieu ce commencement, ce désir. Appuyez-vous auprès de lui sur l'exemple de ce malheureux père qui, suppliant Jésus-Christ de guérir son enfant et interrogé par lui s'il croit, répond en pleurant : « Je crois, Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité !» et qui pourtant n'est pas repoussé. Ou de même, priez, sinon avec foi, du moins avec ce peu de foi que vous avez, sinon avec renoncement, du moins avec ce peu de renoncement que vous avez. Ces premières prières imparfaites vous obtiendront de premières grâces, imparfaites sans doute comme elles. Ces grâces vous exciteront à des prières meilleures, qui vous obtiendront des grâces plus abondantes, et ainsi de prière en grâce et de grâce en prière, vous aussi vous entrerez plus lentement à la vérité, mais vous entrerez à la fin dans la voie des miséricordes divines. Mes frères, dans ce discours et dans le précédent, je vous ai exposé la nécessité et la voie du salut par Jésus-Christ. Si quelqu'un rejetait ces discours, je lui demanderais d'abord ce qu'il en rejette. Est-ce que la forme, le langage, l'enchaînement des idées, libre à chacun de rejeter cela, parce que cela vient de moi? Est-ce au contraire le fond, les idées elles-mêmes? Ce que vous ne croyez pas vrai, est-ce que l'homme est de sa nature pécheur? Qu'il a besoin d'un pardon qui ne peut être obtenu que par la mort expiatoire du Fils de Dieu? Qu'il a besoin d'un changement de cœur qui ne peut être opéré par l'Esprit de Dieu? Qu'il est perdu et ne peut être sauvé qu'en Jésus-Christ? Par grâce, par la foi? Si c'est là ce que vous rejetez, je n'ajoute qu'une réflexion. Agissez du moins en connaissance de cause, et sachez ce que vous rejetez. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Car il n'y a qu'un Évangile, et c'est celui qui enseigne précisément ce que vous rejetez. L'homme perdu, Dieu sauveur. Christ victime, le Saint-Esprit régénérateur. C'est là sur quoi se sont toujours accordés tous les hommes qui ont puisé leur foi dans les Écritures. C'est l'Évangile de l'Église réformée de France. C'est l'Évangile de Calvin. C'est l'Évangile de Luther. C'est l'Évangile de Pascal. C'est l'Évangile de Fénelon. C'est l'Évangile de l'Imitation. C'est l'Évangile de Jean Hus. C'est l'Évangile de Saint Bernard. C'est l'Évangile de Saint Augustin. C'est l'Évangile de Saint Polycarpe, c'est l'Évangile de Saint Paul, c'est l'Évangile de Saint Jean, c'est l'Évangile de Saint Jacques, c'est l'Évangile de Jésus-Christ, c'est l'Évangile de Dieu. en sorte que, si vous le rejetez, vous pouvez bien être appelé chrétien. Vous pouvez même vous croire chrétien. Mais vous n'êtes pas plus chrétien qu'un philosophe qui rejette la philosophie platonicienne, les disciples de Platon. Ce que je vous ai prêché, ce n'est pas mon opinion, c'est la vérité. Ce n'est pas une doctrine, c'est la doctrine. C'est plus, c'est la vie. Et si vous ne croyez pas cela, vous demeurez dans la mort. Que dis-je ? Si vous ne croyez pas cela, que croyez-vous donc ? Qu'êtes-vous ? À qui appartenez-vous ? D'où venez-vous ? Que faites-vous ici ? Si nous nous taisons, les pierres de cette église crieront que le culte qu'elles vous voient rendre ici à Dieu est un contresens. Car sans parler des jours de communion, ou cette liturgie au nom de laquelle on vous invite à vous approcher de la table sainte et que vous reconnaissez vrai en répondant à cette invitation, déclare que vous êtes de misérables pécheurs qui n'ont d'espérance que dans la miséricorde divine. Que Jésus-Christ est le véritable agneau pascal qui a été immolé pour vous et que vous avez besoin que l'Esprit de Dieu vous transforme en de nouvelles créatures. Chaque dimanche, vous n'accompagnez donc pas du cœur, vous n'accompagnez que des mains la prière par laquelle on ouvre le service. Car cette prière se compose de deux parties, dont la première est un résumé de mon premier discours et la seconde un résumé de mon second discours. Quand le pasteur dit tout haut, nous reconnaissons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans la corruption, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien, et qui transgressons tous les jours et en plusieurs manières tes saints commandements, ce qui fait que nous attirons sur nous par ton juste jugement la condamnation et la mort. Il faut, si vous rejetez mon premier discours, que vous disiez tout bas, « Je ne suis pas un pauvre pécheur. Je ne suis pas né dans la corruption, ni enclin au mal. Je ne suis pas incapable par moi-même de faire le bien. Je ne transgresse pas tous les jours en tant de manière les commandements de Dieu. Et je n'ai pas mérité la mort et la condamnation. » Et encore, quand le pasteur dit tout haut, « Nous recourons humblement à ta grâce et te supplions de subvenir à notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous. Dieu très bon, Père de miséricorde, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous aussi et nous augmente continuellement les grâces de ton Saint-Esprit. Il faut, si vous rejetez mon second discours, que vous disiez tout bas, comme je ne mérite pas la condamnation, je n'ai point de grâce à solliciter. Comme je ne suis pas né dans la corruption, je n'ai pas besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Et comme je ne pense pas que l'innocent souffre à la place du coupable, je ne saurais demander mon pardon au nom de Jésus-Christ. En sorte que ne pouvant, aussi longtemps que vous rejetez cette doctrine, vous mettre d'accord ni avec l'Église protestante, ni avec les réformateurs, ni avec les catholiques pieux, ni avec les chrétiens de tous les temps, ni avec les pères de l'Église, ni avec l'Église primitive, ni avec les apôtres, ni avec Jésus-Christ, ni avec Dieu, ni avec vous-même, il faut sortir de quelque manière d'une situation si fausse. Il faut ou aller plus avant, ou revenir en arrière, ou prendre la chose, ou quitter le nom, ou recevoir cette doctrine, ou renoncer à être chrétien. Ô vous, qui que vous soyez dans cette assemblée, que Dieu a rendu sérieux par ses discours, faites de ces dispositions sérieuses un usage fidèle. Aujourd'hui même, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point votre cœur. Qui sait si ce n'est pas ici votre jour favorable, votre jour de salut, qui peut, si vous le négligez, ne plus revenir, qui peut aussi, si vous l'accueillez fidèlement, marquer pour vous l'ère d'une vie nouvelle. Oubliez toute influence humaine, toute impression humaine. Ne voyez que Dieu et vous. Dites-lui, « Mon Dieu, J'ai cru jusqu'à présent être chrétien, mais je commence à entrevoir que je ne l'étais que de nom. Je sens que tout n'est pas bien en moi, que je n'ai pas la paix avec toi. Donne-la-moi, cette paix, Seigneur. Fallait-il renoncer à tout le reste? Veux-tu ma fortune? Voici ma fortune. Veux-tu ma réputation? Voici ma réputation. Veux-tu mon bien-être? Voici mon bien-être. Veux-tu les objets même de mes affections? Faut-il me séparer de mon ami, de mon père, de ma mère, de ma femme, de mon enfant? Voici, le sacrifice est accepté. Avant tout, ta volonté. Avant tout, ta vérité. Avant tout, ton esprit. Avant tout, ma conversion. Convertis-moi, Seigneur, et je serai converti. Mon Dieu, si quelqu'un te prie de cette manière, il n'est pas éloigné du royaume des cieux. Achève, ô achève de lui faire faire le seul pas qui reste encore, en envoyant en son cœur pour le presser, pour l'importuner, pour continuer l'œuvre et pour la terminer, cet Esprit Saint, avocat céleste de la vérité, sans lequel l'avocat terrestre n'aurait été qu'un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Amen.